Le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines, l'année 2015. On s'en souvient encore, une année sous le choc des attentats, Paris, la rédaction de Charlie Hebdo, l'hypercachère. Et le 13 novembre, plus de 130 morts dans les fusillades du Bataclan et de l'Est parisien, mais aussi Bamako. Et en mars 2016, aussi Bruxelles. Et début juin, Orlando, une attaque dans une boîte gay qui a fait 49 morts. Et plus près nous encore, avant-hier à Bagdad avec 200 morts. Alors on ne peut guère ignorer ces événements perpétués par des hommes qui se revendiquent de l'État islamique. Une véritable onde de choc qui parcourt la planète. Alors quelles sont les conséquences pour nos sociétés? Comment chacun est marqué à sa manière? Pourquoi, par exemple, avons-nous manifesté après les attentats? Comment, parlons des victimes aussi, comment les victimes et leurs familles ont-elles été prises en charge? Et est-ce possible de vivre normalement après? Bref, faut-il apprendre à vivre avec les attentats? Beaucoup de questions pour nos deux invités aujourd'hui. Je commence avec vous, Sylvie Tenenbaum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute et vous publiez « Apprendre à vivre avec les attentats » aux éditions Albin Michel. En gros, tout pour comprendre et surmonter le stress post-traumatique. Également avec nous, Jérôme Truc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous avez publié « Sidération ». C'est au pluriel, donc avec un S. « Sidération, une sociologie des attentats » chez PUF dans la collection « Le lien social ». Alors les voisins, les voisines, racontez-nous comment, combien aussi vous avez été touchés. Chacun à votre niveau après ces séries d'attentats. Est-ce qu'il y a pour vous un avant et un après? Racontez-nous au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors sur Facebook, il y a de nombreux messages qui arrivent. Effectivement, personne n'est indifférent. Il y a par exemple Narouwa de Lomé qui nous dit, pour lui, la solution est simple. Il faut vivre comme s'il n'y avait rien de différent, mais tout en sachant qu'on peut mourir à tout moment. Alors voilà un peu ce qui nous raconte. Il y a Henri Joël de Casablanca qui dit « De toute façon, avec ou sans terroristes, nous sommes appelés à mourir un jour ». Il y a Brahima aussi de Bobo Diolasso qui lui dit qu'en réalité, en s'intéressant toujours à ce sujet, eh bien, nous donnons de la valeur à ces criminels qui ne demandent qu'à ça. Alors jusqu'où aller effectivement dans cette médiatisation? Comment en parler? Montrer ou pas la violence? C'est des questions qu'on va aborder aujourd'hui et l'impact sur les populations. Oui, c'est Sam aussi du Koweït qui dit la même chose. Il ne faut pas donner de l'importance aux terroristes. Ils prendraient trop de plaisir à sentir notre peur. Il faut donc continuer de vivre avec. Alors, continuez d'échanger sur Facebook. On va parler de vos messages tout au long de l'émission.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors cette peur de mourir dans un attentat aussi qui ressort donc dans les messages Facebook, il y en a qui parlent vraiment de panique totale aussi, qui ne sait plus quoi faire pour vivre en paix, ça c'est Charles de Bujumbura. Cette peur aussi de perdre un être cher, de revivre le 13 novembre à Paris par exemple, cette menace au-dessus de nos têtes, est-ce que c'est vraiment devenu une réalité, Jérôme Truc?
Mais... Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est très intéressant les messages que vous donnez là, de Facebook, ça traduit la pluralité des réactions à des attentats dans nos sociétés démocratiques, pluralistes. Et il faut bien voir aussi que cette pluralité des réactions, elle tend souvent à être écrasée sous le poids des discours médiatiques qui construisent les bonnes questions par rapport à ça. La simple question « faut-il apprendre à vivre avec les attentats ?» par exemple, il faut voir qu'elle ne fait pas naturellement sens pour tout le monde. Pour des gens qui ont été particulièrement concernés par les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, pour des journalistes qui ensuite ont été aussi profondément concernés par les attentats de novembre, parce que ce sont des journalistes qui habitent à Paris, y a ce sentiment qu'on a été déjà deux fois touché, qu'effectivement ça devient lourd. Mais si on se décentre un peu, qu'on va voir ailleurs, si on interroge des gens à Ouessant, par exemple, ou... je pense à Ouessant parce que vous avez... un court-métrage d'un réalisateur qui s'appelle Alexandre Lieber, qu'on peut trouver sur Internet, qui, deux semaines après le 13 novembre, est allé interroger des gens à Saint-Malo pour leur demander justement voilà, qu'est-ce que ça change pour vous, comment vous vivez les choses. Et ce qui ressort, c'est le fait que beaucoup de gens disent « Bah non, pour nous, ça change pas grand-chose. Effectivement, on est triste pour les gens à Paris, mais enfin, pour nous, la vie continue. Non, on va pas commencer à avoir particulièrement peur, etc. » Donc cette question de « Faut-il apprendre à vivre avec les attentats ?» elle fait du coup, évidemment, beaucoup moins sens pour des gens qui vivent à Saint-Malo ou à Ouessant ou dans la Creuse ou que pour des gens qui sont à Paris directement frappés.
Mais Sylvie Tenenbaum, est-ce qu'on peut quand même dire que chacun, à son niveau, a été touché avec les images ou par la famille ou...
Oui, alors je pense que le jour même et les quelques jours qui ont suivi avec les images en boucle et les commentaires et les hurlements et les sirènes, les gens qui hurlaient, qui pleuraient, enfin tout ce qu'on a pu voir surtout à la télévision pendant à peu près 48 heures, c'était pas possible. C'est pas possible à Ouessant, à Saint-Malo ou en Creuse ou n'importe où de ne pas être touché. Mais c'est vrai que la notion de distance, elle est très importante pour se sentir plus ou moins touché. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure à Jérôme Truc, il y a des gens qui sont touchés par des attentats qui ont lieu très très loin de chez eux parce que ça réveille chez eux des mémoires traumatiques. Et là, ça, peu importe le lieu, peu importe l'éloignement, ça les touche d'une manière, j'allais dire, presque excessive par rapport à la réalité.
De ce qu'ils ont vécu, eux, mais en fait, ça réveille des chocs qu'ils ont connus enfants. Par exemple, il y a des gens qui avaient vécu des attentats à Alger, par exemple, quand ils ont vécu tout ça, ça les a remis dans cette histoire.
Il y a ça, vous pouvez aussi avoir le cas, par exemple, des personnes qui ont leur anniversaire le jour de l'attentat. Ou qui ont une date importante dans leur vie, le jour de l'attentat. Tout le nombre de personnes, français par exemple, qui ont été concernées par le 11 septembre parce qu'ils sont nés un 11 septembre.
Voilà,
ça renvoie aussi à une sensibilité sociologiquement construite qui fait qu'on attache l'importance à son anniversaire, ce qui n'a pas toujours été le cas, et qui fait que du coup, l'anniversaire devient problématique parce que il est attaché à cette date traumatisante.
Mais alors comment vous expliquez-vous quand même l'ampleur des réactions que ça a suscité en France ?
Les attentats du
13 novembre.
Du 13 novembre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la réaction à chaque attentat, à un niveau collectif, c'est l'agrégation d'une pluralité de réactions individuelles qui procèdent à la fois de facteurs psychologiques, de facteurs sociologiques. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte quand on fait les enquêtes, en fait, c'est qu'à l'échelle des plus directement impliqués des victimes, on va avoir des gens qui, effectivement, ont un stress post-traumatique et d'autres, pour des raisons qui relèvent de que les psychologues cherchent à comprendre, qui vont être très rapidement résilients, en fait. Alors qu'à l'inverse, que disait à l'instant Sylvie Tenenbaum, on peut avoir des gens, effectivement, à Ouessant ou à Saint-Malo, qui, face aux images télévisées, vont prendre ça avec pas mal de distance. D'autres qui vont avoir des symptômes de stress post-traumatique peut-être plus nets que des personnes habitant à 100 mètres du Bataclan, par exemple.
Oui, ces personnes vont être impactées bien davantage. Mais ça, c'est vraiment inscrit dans leur histoire de vie ou celle de leur famille avant, en fonction de tout ce qui a pu être vécu.
Alors, dans le titre de votre ouvrage, Jérôme Truc, c'est « Sidération » dans le titre de votre ouvrage. Qu'est-ce que ça signifie pour une société ? Et après, on en parlera au niveau individuel.
Oui. Ben justement, la sidération, elle est mise au pluriel parce que il faut bien voir aussi que on vit une époque où il y a une forte prégnance des discours psychologiques. Ça date d'une trentaine d'années, ça a été très bien analysé par des sociologues et des historiens. C'est très prégnant dans le sens commun et ce sont des discours qu'on des catégories qu'on utilise très facilement pour rendre compte de ce qu'on vit. Le traumatisme, la résilience. Et donc, quand on a un attentat, on dit, voilà, il y a un traumatisme qui est collectif. Bon. Et en fait, le travail sociologique, le travail psychologique aussi, le dialogue pluridisciplinaire, déconstruit ce discours-là, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un traumatisme collectif. On va voir à l'échelle individuelle ce qu'il y a derrière. Et en fait, la sidération, donc du coup, elle est au pluriel. Le titre du livre, c'est ça, parce qu'on dit tous, on est sidéré face à l'événement. Et en fait, cette sidération, elle renvoie pour les uns et les autres à différents facteurs, à la fois psychologiques et sociologiques.
Oui. Sylvie Tenenbaum, elle renvoie personnellement, donc quand on se dit, je suis sidéré, qu'est-ce que ça provoque?
La sidération en termes psychologiques, c'est un état de choc. Mais en même temps, il peut aussi y avoir des sidérations collectives. Je pense par exemple à des grands-parents qui ont connu, il en reste encore, la Shoah et qui emmènent leurs petits-enfants dans les synagogues et qui peuvent retrouver cette forme, non pas de sidération, mais de « c'est pas possible, je pensais jamais que mes petits-enfants pourraient vivre quelque chose comme ça ». Donc sur ce plan-là, il peut y avoir une sidération collective après l'attentat de l'hypercacher.
Mais cette sidération, elle englobe quoi ? La peur, la colère, la reste, tout ça. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ?
La peur, la colère, là, c'est pas possible, ça continue, ça recommence. Encore qu'avec les attentats du 13 novembre, effectivement, il n'y avait pas une cible particulière. Donc, c'est la sidération, elle est complètement différente par rapport à, par exemple, Charlie Hebdo, où là, on a attaqué des journalistes pour leurs idées, l'hypercachère, on sait pourquoi, tandis que le 13 novembre, c'était monsieur, madame, tout le monde, c'était simplement un mode de vie parisien, le soir, en terrasse ou à un match de foot. Et donc, les victimes ne sont plus les mêmes dans ce cas-là.
Elles n'étaient pas désignées. Alors, comment vivre, effectivement, après les attentats ? On va continuer après Pendulum de FKA Twigs. Quel impact des attentats sur nos sociétés, les voisins, les voisines. Et nous avons Arnold qui nous appelle de Bruxelles. Bonjour Arnold.
Bonjour.
Merci. Merci d'être avec nous, donc d'avoir composé le 33 1 84 22 71 71. On vous écoute donc en direct de Bruxelles.
Ah très bien, ici, on va dire que les attentats se vivent de manière assez véhémente ici depuis ceux de Paris. Ça a commencé ici. Je me rappelle bien, la semaine avant ceux de Paris, j'étais justement à Paris, comme j'y vais toutes les semaines. Et j'ai vu comment ça a changé à la fois à Bruxelles et à Paris, dû aux événements que vous connaissez. C'est-à-dire, c'était assez particulier de voir la psychose dans le regard des gens, dans les attitudes qui changeaient au fur et à mesure. Et aussi de constater que certains médias et certains politiciens n'aidaient pas vraiment à améliorer la situation. Je me souviens d'un épisode particulier quand je suis rentré de Paris, je crois, c'était après les attentats de Paris, dans le bus, et il y a eu à un certain moment, il y a eu un petit bruit assez anodin, et vu que tout le monde avait tellement peur à ce moment, tout le monde s'est retourné, s'est regardé en chien de faïence, avait tellement peur, on voyait dans le regard des gens qu'il y avait vraiment une certaine peur.
Et ça, vous l'avez vraiment effectivement remarqué. Et il y a aussi cette sorte de peur, panique un peu qui a été prise suite à un bruit un peu bizarre dans le bus. Alors, la ligne n'est pas très bonne. Je ne sais pas si vous bougez, si vous vous déplacez avec vos téléphones, mais ça fait plein de bruits bizarres aussi. On ne va pas penser à mal. Mais il y avait aussi, vous le disiez, la présence des militaires marquantes aussi, qui était assez aussi intimidante.
Oui, justement, à Bruxelles, depuis un certain temps, on a eu des militaires dans la rue, dans les transports. Au départ, c'était assez, on va dire, étonnant de marcher dans la rue et voir des militaires patrouiller comme dans un pays en guerre. C'était assez nouveau pour nous. C'était un peu choquant aussi, que je n'aurais jamais imaginé vivre dans un pays où il y aurait, comme à la télé, dans certains pays en guerre, des militaires partout. Bon, au fil du temps, on s'y habitue plutôt, ce qui n'est pas... Ce n'est pas une bonne chose, je trouve, mais bon, on en apprend à vivre avec. C'est assez fort dans les transports, dans la rue, parfois près de certaines écoles, certains musées sensibles comme le musée juif. Oui. Ça crée une certaine ambiance, d'ailleurs, assez lourde.
Oui, merci beaucoup, Arnold, pour vos témoignages. C'est intéressant ce que vous dites quand il dit on s'habitue à les voir. Effectivement, cette présence militaire, c'est cette peur. Et ça fait même peur de s'habituer à cette présence militaire, comme si on était dans un état en guerre, Jérôme.
Bien sûr, moi, j'étais la semaine dernière pour une conférence à Bruxelles. Et effectivement, je peux témoigner, en sortant du métro, après avoir pris le Thalys, je sors du métro, là, je tombe nez à nez avec des policiers, avec des militaires en armes, équipés comme le sont à Paris ceux des forces sentinelles. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Mais de la même manière que le Vigipirate, les mesures Vigipirate mises en œuvre en France depuis les années 90, on a appris à vivre avec, on sait ce que c'est que les Vigipirates, orange, rouge, depuis les bonbonnes de gaz qui explosent dans les années 90, on sait qu'il faut faire attention dans le RER, les poubelles, etc. Donc,
mais est-ce qu'il faut s'y habituer ou est-ce qu'il faut s'y résigner ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer d'être...
Je ne sais pas si la question, est-ce qu'il faut le faire ? C'est un fait, on s'habitue à ça, on vit avec.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'habituer ou pas, donc il vaut mieux faire avec.
Et alors, le propre des attentats, justement, c'est ce qu'on entendait dans le témoignage, c'est qu'on ne sait pas quand ça va frapper ni où ça va frapper. Donc ça, c'est très différent avec une guerre civile, par exemple. Donc c'est ça qui rend aussi l'attentat, la peur aussi... Oui. Prégnante.
Non, mais bien sûr, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que ce que vivent actuellement les gens en France, à Paris, n'est sans commune mesure, on en parlait là aussi avant l'émission, avec ce que peuvent expérimenter les gens qui vivent à Jérusalem ou à Bagdad depuis 10 ans, ou c'est ça, un quotidien, ou actuellement en Syrie, le quotidien de dans la rue, on peut se retrouver avec une bombe qui explose tous les jours, etc. Et là, il faut vraiment vivre avec cette menace permanente au coin de la rue. On n'est absolument pas dans cette problématique-là actuellement en France, c'est une évidence.
Je suis entièrement d'accord.
Alors, on va continuer de la sidération. On a vu que ceux qui étaient touchés, donc le sous-titre aussi de votre livre, « Apprendre à vivre avec les attentats, comprendre et surmonter le stress post-traumatique ». Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les symptômes de ce
Alors,
stress
post-traumatique ? Le stress post-traumatique, il vient ou ne vient pas. À la suite d'abord du stress aigu, c'est-à-dire la phase de stress immédiate pendant l'attentat. Ou juste au moment où on se rend compte que soi-même est blessé ou son voisin et que ça aurait pu être soi. Si cet état de stress aigu dure plus de 3 mois, il faut quand même 3 mois, on peut commencer à parler de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas une notion aussi simple. Et la notion de stress post-traumatique, il y a les principaux symptômes, c'est la reviviscence, c'est-à-dire qu'on revit en boucle sans arrêt ce qu'on a vécu ou ce qu'on aurait pu vivre. C'est l'insomnie, c'est des comportements un peu aberrants. Soit on est apathique, soit on est hyperactif.
Mais est-ce qu'il faut avoir vécu de près les attentats pour vivre ces traumatismes ?
Pas forcément. On peut très bien... Je parlais justement, avant le début de l'émission, d'une personne que j'ai suivie longtemps et que je revois encore d'ailleurs de temps en temps, qui était à Paris pendant les attentats du 11 septembre. Et à chaque attentat, il y a une reviviscence, effectivement, de cette mémoire traumatique qui revient. Elle n'était pas sur place et elle a été extrêmement choquée et sidérée par cet attentat-là.
Est-ce qu'on peut, on peut savoir, on peut les compter, par exemple, combien de victimes ont été considérées ? Combien il y a eu de syndrome de stress post-traumatique à la suite du 13 novembre ?
4 000 victimes.
Qui ont eu tous ces symptômes-là.
Connus. Ouais,
connus, qui connus. Se sont déclarés.
Oui. Connus, parce qu'il y en a d'autres qui... Je ne sais pas, je pense à des personnes âgées, toutes seules dans leur coin, qui ne vont pas aller se plaindre de stress post-traumatique. Elles ne savent même pas ce que c'est. Mais elles ont revécu des guerres, des exodes, des exils, la guerre d'Algérie, la guerre tout court, enfin la dernière guerre, etc.
Il y a tous ceux qui n'ont pas osé se plaindre aussi.
Parler des enfants. Sans parler des petits, par exemple, 5 minutes de retard de la nounou ou même 3 minutes de retard de la nounou pour venir chercher à l'école, certains enfants se mettent à pleurer depuis le 13 novembre. Avant, ils ne pleuraient pas, ils attendaient la nounou tranquillement.
Alors, comment continuer à vivre sans se laisser envahir par la peur tout en étant conscient du danger ? Comment envisager l'avenir de manière positive ? On continue avec vous, Sylvie Tenenbaum. Vous avez écrit « Apprendre à vivre avec les attentats » aux éditions Albin Michel. Et Jérôme Truc également, vous restez avec nous. Vous publiez « Sidération, une sociologie des attentats » chez PUF. Dans 3 minutes, on se retrouve avec vos questions au 33 1 84 22 71 71. Et nos invités, restez avec vous. Ne bougez pas.
autour de la question.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez, les voisins, les voisines. Vivre avec la menace terroriste est une réalité qui s'impose peu à peu à nous. Alors que la liste des villes frappées par les attentats s'allonge, avec le dernier en date, c'était donc à Bagdad, puis en Arabie Saoudite. Alors depuis les attentats de Paris, un vendredi 13 novembre de 2015, chacun de nous se sent donc concerné. Tout le monde peut être une cible, on a peur pour soi ou sa famille, ses amis. C'est une nouvelle guerre idéologique qui existe au niveau planétaire et personne ne semble exclu. Il y a même Cani qui nous appelle de Cani, donc, et qui dit, lui, ben moi, je suis désolé, mais les attentats de Maroua, justement, au Cameroun, n'émeuvent pas autant de monde et j'aimerais bien voir un peu plus de solidarité pour les familles de Maroua. Il en appelle donc à la solidarité. On va en parler, justement, puisque à la suite des attentats en France, il y a eu une grande réaction vraiment d'entraide et d'altruisme. Nos invités vont nous en parler. Alors, comment composer donc avec une société blessée, vulnérable, avec ce climat de peur, cet état d'alerte permanent. Nous sommes donc avec Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute qui a écrit « Apprendre à vivre avec les attentats » chez Albin Michel, « Comprendre et surmonter le stress post-traumatique » et Jérôme Truc, « Sidération, une sociologie des attentats » chez PUF dans la collection « Le lien social ». On attend vos témoignages, vos questions aussi au 33 1 84 22 71 71. Alors effectivement, on avait envie de parler des réactions pendant ces attentats. Sylvie Tenenbaum, ce que les témoins ont raconté à la suite du Bataclan, par exemple.
Oui, alors, c'est ce qui a été extraordinaire, il y a eu énormément de témoignages, évidemment, là, dans toute la presse, écrite et parlée et télévisée. Et une des choses, moi, qui m'a frappée, c'était ce besoin de secours mutuel, d'entraide, qui s'est manifesté à ce moment-là. Alors, autant il a pu y avoir de gens complètement indifférents. Moi, je vois, j'habite une petite impasse ravissante qui a l'air d'être hors Paris. J'ai parlé à plusieurs de mes voisins, se sentaient plus ou moins concernés. Pourtant, c'était pas loin. J'habite dans le 20e et c'était pas très loin. Mais tandis que d'autres se sont vraiment investis en dehors de l'entraide sur le moment. Au Bataclan et dans...
Oui, parce que sur place, il y a eu vraiment des actes héroïques de la part des survivants.
Sur place, il y a eu exactement des actes complètement héroïques sous la menace des Kalachnikovs, hein, vraiment.
Il y en a qui ont utilisé leur corps pour protéger d'autres.
Oui, voilà. Il y a des belles recherches en cours là-dessus, parce qu'en fait, ça va à l'encontre de la théorie psychologique standard, qui dialogue avec les sciences biologiques darwiniennes, selon lesquelles l'instinct de survie devrait nous rendre égoïstes. Et on se rend compte en situation là qu'il y a des gens qui ont des comportements profondément altruistes, donc oui. Du coup on cherche à comprendre pourquoi. De la même manière, mais ça c'est autre chose, du coup, là on parle des gens qui sont impliqués directement dans l'événement, chez effectivement plus largement la population parisienne. On a des gens qui se sentent plus ou moins concernés, ce qui tient, ce qu'on disait précédemment, à la fois des facteurs psychologiques, le fait d'avoir connu des choses similaires, le fait d'avoir une éducation, etc., le fait d'avoir eu un traumatisme ou des parents qui en ont eu un qui fait qu'on est sensible à l'événement, et puis des facteurs plus sociologiques qui font qu'effectivement, y compris même dans le 11e arrondissement, il y a, dans un même pâté de maison, des personnes qui peuvent avoir aujourd'hui un PTSD, un stress post-traumatique, et d'autres qui ont été relativement indifférents à l'événement, parce qu'ils n'étaient pas chez eux ce soir-là, etc. Et inversement, dans le 20e arrondissement, qui n'est pas considéré comme étant un des quartiers frappés parce que ça n'a pas eu lieu là, etc. On peut avoir des gens, c'est pas loin. C'est il peut y avoir des gens qui sont habitués à venir dans les bars du 11e, habitués à venir au Bataclan et qui, en fait, ont été très concernés par ce qui se passait ce soir-là dans ce quartier-là.
Oui, il y a une très grande variabilité interindividuelle sur ce plan. Et elle s'est traduite d'ailleurs par l'ampleur des manifestations. De tous âges, enfin les enfants de tous âges, il y a eu beaucoup de dessins, il y a eu beaucoup d'enfants qui écrivaient partout des tas de choses sur les trottoirs, sur les murs. Tout dépend aussi de comment on en parlait chez eux. Dans la famille, c'est évident.
Il y a eu cette volonté d'exprimer sa solidarité avec ce que vivaient les autres, de se sentir... il y avait un mouvement vraiment altruiste dans une société qu'on dit très individualiste. Moi, je voulais vous donner une réaction justement de quelqu'un qui a été touché de très près, puisque c'était Antoine Léry, s'est adressé effectivement un peu à ces terroristes sans le nommer, puisqu'il a écrit une lettre qui a été publiée rapidement. Il commençait comme ça sa lettre. « Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie. la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Donc là, c'était vraiment une manière aussi de quand il a sorti un livre aussi qui a vraiment bien marché en France. Il se refuse à se faire submerger par la haine et de ne pas rentrer dans le jeu des terroristes. Hein.
Oui, ce serait effectivement aller complètement dans leur sens. Ils n'attendent que ça. Enfin, je suppose.
Oui, lui, il a su trouver. Il a su trouver les mots pour transcender cette histoire. C'est quand même sa femme qui est touchée direct.
C'est un trait de réaction. Oui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai entendu des victimes dire, j'aurais aimé pouvoir réagir comme lui, trouver les mots, etc. Parce que par ailleurs, dans d'autres messages qui ont été moins médiatisés, ou c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, j'ai travaillé avant sur les attentats de Madrid, de Londres, du 11 septembre. C'est très fréquent que les victimes réagissent sur le mode de je ne veux pas parler des terroristes. D'ailleurs, ils les qualifient même pas comme ça. Souvent, ils disent ces hommes. Ou il y a une volonté de se centrer avant tout sur presque comme une catastrophe naturelle qu'on dépolitise, ne pas vouloir rentrer dans ce piège d'une spirale de la violence, d'une haine contre les terroristes, un conflit du nous-eux, une volonté de très dépolitiser tout ça, qu'on trouve chez certains, hein, et qu'on retrouve aussi dans les réactions de la société civile, bien souvent. Si on regarde ce que les gens écrivent, moi j'ai travaillé sur ces documents-là, en fait, ils viennent déposer sur les lieux des attentats, finalement les terroristes sont très peu présents. C'est avant tout des messages adressés aux victimes, des messages de compassion plus que des messages de haine ou de colère.
C'est ce que dit Ibrahim de Lasso. Il dit par exemple il ne faut pas donner de la valeur à ces criminels et qu'ils ne demandent qu'ils ne demandent que des
antagonismes à l'intérieur de la société.
Les discours médiatiques portés sur ces attentats, bien souvent, mettent l'accent sur le fait que c'est des attaques contre des nations. On attaque Paris, c'est l'attaque contre la France et les valeurs que la France incarne, donc liberté, égalité, fraternité. Si on regarde ce que les gens écrivent dans les messages, la valeur qui ressort le plus, c'est la paix. Après chaque attentat perpétré en Occident, Madrid, Londres, déjà le cas après New York et encore Paris, ce qui revient tout le temps, c'est la paix. Donc on a affaire, si vous voulez, à des individus qui vivent en paix, qui sont pacifiques, qui sont paisibles et qui veulent à tout prix défendre ça dans un contexte où ils ont l'impression que le monde va à la guerre et qu'on cherche à tout prix à provoquer, y compris la guerre civile, dans leur propre société.
Alors au niveau individuel, il y a le message de Charles de Bujumbura qui nous dit « Moi, je vis dans la panique totale et je ne sais plus quoi faire pour vivre en paix individuellement. » Oui, Sylvie Tenenbaum.
Alors là, peut-être qu'il aurait besoin d'aide, d'une aide psychologique pour apprendre à se rassurer lui-même et à vivre avec. Après tout, le toit peut nous tomber sur la tête.
Oui, aussi. C'est ce que disent d'autres. Hein. Avec ou sans terroriste, nous sommes tous appelés à mourir un jour. Mmh. Est-ce qu'il faut en arriver
là ? Oui,
et
en général, on ne choisit pas.
Donc accepter une forme de fatalité par rapport à...
Notre condition de mortel, ce genre d'événement nous ramène à notre condition de mortel, évidemment. C'est ce qu'on entendait dans d'autres réactions que vous donniez au tout début de l'émission.
Alors, comment vivre après les attentats ? On va continuer après Badola de Xuman. Ci bol bi ta mo ci mujjé foko fekk dé fakkol lé bon lé tek ci bëgg wujjé do doy lo do na doy na do doy yal do dé sal ba do lo gaw ci né do li mo bot sa gaw di la ti sa bala jox ci ndablé ndawal li jé bu suré du né jaro nak né fu du ray dé rek né moy buruk do garab ñami ta fum la fekk ci tolop tolop bay la fa ta boko invité dé invité mara mam da wax bu yonam né fok mu sappelé ci xonamam da fay sew jikko man set lu fi so sa sutura lu la xamal bu siw rax ci gaw ci sa xamuñ jo wante bala mo wacc mu dag bëggu la dégg dëgg ki mo bëgg dégg moy ku koy tag sédalé bu ki lay sédalé su ko yalla maye tout ci doole dootul déggalé dafa gaawa xébaate gaawa yabaate ku ko ëppale kese kooku lay respecté ak mana falaate gaawa jëlaate rambaat di seytaane ñàkk koloré gaawa jëwaate bu suré réew bu amé mbéw amul kaddu ta dé bëgg wax yu sew
Bukhale de khule kumud kalnga tokhu dina la nye dina la inyane dina la soufu dina la zughlu Dafa man nyan tenay babu saw sax du sit sur tu gessa toilette bay fo bombe atomique bu ko de kala nu bolo du fiber bu abe du de lo so ke nyan nyan ko ci bi mbolo ndax bu le may da kay def ci mbolo
Comment vivre après les attentats, les voisins, les voisines? La vie reprend ses droits, comme toujours, mais quel est le processus de retour à la vie d'un peuple touché, comme par exemple la France, après le 13 novembre, et les victimes aussi? Hier, on les a entendues à l'occasion de la fin des travaux de la commission d'enquête. C'est un reportage de Guillaume Delteil de la rédaction de RFI.
Améliorer l'efficacité des services de renseignement ne prémunira pas la France de tout attentat, prévient la Commission. À ses yeux, l'attaque du Bataclan était difficile à déjouer, une analyse que ne partage pas Caroline Langlade, vice-présidente de l'association Life for Paris.
Pour une victime, c'est très très compliqué à entendre, compte tenu que des gens ont affirmé qu'il allait y avoir des attentats contre des salles de concert et que rien n'a été mis en place pour protéger ces salles, je trouve que la réponse est assez légère.
Scepticisme et grincement de dents sont partagés au sein des associations de victimes, mais Claude Domenac, le vice-président de l'association 13 novembre Fraternité et Vérité, veut tout de même voir le verre à moitié plein.
On se satisfait quand même d'entendre enfin des politiques qui viennent nous dire « oui, ça n'a pas marché, oui, là, il faut améliorer ». Ça change du discours notamment de Bernard Cazeneuve, qui a été assez abject. Je suis désolé, j'emploie les mots tels qu'ils sont, mais quand il dit qu'il n'y a pas de problème.
Le temps n'est plus à établir un diagnostic, mais le temps à établir un plan d'action. Et une nouvelle fois, on nous explique qu'on est en guerre. Quelles sont les actions concrètes que l'on met face à cet état de guerre ?
Et là, c'était Stéphane Jiquel de la Fédération nationale des victimes d'attentats. Donc effectivement, on les a écoutées, hein, ces victimes. Est-ce qu'on peut voir avec vous, Sylvie Tenenbaum, comment on considère effectivement une victime après les attentats ? Est-ce que c'est difficile de se voir reconnaître son statut de victime ?
Malgré tout ce qui a été fait réellement et tout ce qui a été dit, il est effectivement difficile, à moins d'être en mille morceaux, d'être vraiment reconnue comme victime. Parce qu'il y a les blessures physiques et je ne suis pas complètement sûre que les blessures psychiques soient réellement et bien prises en charge. Pas plus que les certaines blessures physiques. De toute façon, il y a eu...
Donc les 4000 victimes dont vous parliez, atteintes du syndrome de stress post-traumatique, n'ont pas été reconnues comme des victimes,
non,
comme telles.
Non, je crois vraiment pas.
C'est très très difficile. Parce qu'en fait, les critères pour qualifier une victime sont à la fois psychologiques et juridiques, sont l'objet de luttes politiques aussi.
Oui.
En Espagne, par exemple, où il y a une plus longue antériorité de mobilisation des victimes du terrorisme, il y a certaines victimes d'attentats qui refusent d'être qualifiées comme des victimes parce qu'il y a une instrumentalisation de ce terme-là. Et pour prendre des choses très concrètes, très pragmatique, par exemple, en France, après le jour du 13 novembre, des personnes qui étaient blessées légers, qui voyant qu'il y avait autour d'eux des gens qui avaient pris des balles dans le corps, qui étaient mourants, etc., ont eu le réflexe d'abord de rentrer chez elles, de ne pas se faire prendre en charge par le service de secours pour aller à l'hôpital. Qui sont d'elles-mêmes ensuite allées à l'hôpital pour se faire soigner. Très difficile pour elles, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en place sur place, de faire valoir le fait que oui, elles étaient bien à la Belle Équipe ou au Petit Cambodge ce soir-là, que oui, elles sont bien victimes. Bon, il faut, au-delà du diagnostic psychologique dans certains cas, les preuves tangibles pour entrer dans une catégorie qui est avant tout une catégorie juridique, parce que derrière, il y a aussi des histoires d'indemnisation et d'argent, c'est très très compliqué.
Et justement, vous parliez de ceux qui pensaient avoir juste un petit bobo... Après ces attentats, il y a tous ceux qui n'ont pas osé se plaindre hein, parce que justement, ils avaient survécu. Et vous parlez du complexe du survivant dans votre livre, Sylvie Tenenbaum,
oui.
Apprendre à vivre avec les attentats chez Alban Michel.
Ceux à qui on a dit « Oh, t'as de la chance ». Oui, dans un sens, c'est de la chance parce qu'ils ne sont pas morts. Mais est-ce que c'est vraiment avoir de la chance que d'avoir vécu un attentat ? Je ne suis pas entièrement d'accord. Quant au complexe de survivant, c'est une culpabilité. D'être vivant par rapport à ceux qui sont morts alors qu'ils étaient exactement dans les mêmes conditions. Ça se retrouve après chaque génocide, qu'il soit arménien, nord-coréen, ou peu importe, ou après la Shoah ou beaucoup d'autres, ou chez les Indiens d'Amérique.
Donc au fond, ils se disent, je n'ai pas le droit d'aller me plaindre.
J'ai pas le droit de me plaindre parce que moi, je suis encore vivant.
Et du coup, ils s'enferment dans quoi ?
Ouais. Ils s'enferment dans, à la fois, je dois témoigner de ce qui s'est passé et en même temps, je m'interdis de vivre de façon épanouissante parce que c'est comme si j'étais toujours en deuil. Quoi. C'est un deuil pathologique jamais fait.
Et notez bien que pour les victimes, il y a quelque chose de cette nature-là aussi, qui dans le fait que être considéré comme victime, bien souvent, peut être perçu comme quelqu'un qu'on doit assister, qui est amoindri dans ses facultés physiques, mais aussi du coup de citoyen, etc. Et on a du coup des victimes qui, elles aussi, en fait, il y en a un discours. Quand je vous disais que certaines en Espagne refusent d'être qualifiées de victimes, c'est aussi par rapport à ça, une volonté de dire non, je continue à être un être humain, un individu, un citoyen à part entière. Et je veux pas que des personnes parlent en mon nom, parce qu'il peut y avoir aussi ça, hein, tous ceux qui à tort et à travers disent les victimes. Les victimes, ça, oui, etc. Oui. Donc, ce qui est l'objet systématiquement de tensions, bien souvent, entre les rescapés eux-mêmes, si on ne les appelle pas victimes, justement, ou les blessés, etc., qui fait qu'on a souvent plusieurs collectifs et pas qu'un seul, bon, etc. C'est très, très compliqué pour les personnes qui sont directement impliquées, rescapées, survivants ou endeuillées, etc. Souvent, les tensions qu'on peut avoir entre ceux qui ont été blessés et ceux qui sont endeuillés, à partir de... Ça, c'est une qualification juridique, par exemple, à partir de quand quelqu'un... Des proches parents qui perdraient leur enfant sont reconnus comme victimes, mais... Imaginons un demi-frère ou une demi-sœur très proche de la personne qui est disparue, pourvu en plus qu'elle ait une nationalité étrangère, qu'elle vit dans un autre pays, ne sera pas reconnue victime juridiquement de la même manière, ce qui peut générer des tensions, etc. Bon, c'est des choses extrêmement compliquées qu'on ne perçoit pas tant qu'on ne rentre pas finalement dans l'enquête de terrain, qu'on ne va pas rencontrer les gens et qui sont généralement... auxquels sont confrontés directement les psychologues, les sociologues, les politistes qui travaillent sur ces questions-là.
Tout à fait. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement la reconnaissance, la prise en charge psychologique. Et petit à petit, donc, ces victimes entrent dans une procédure judiciaire pour faire reconnaître leurs droits.
Dans une procédure judiciaire, souvent aidée par des associations dédiées à ce genre de procédure. Et... dans des procédures psychothérapeutiques, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que soit elles sont les cellules médicales d'urgence les dirigent vers des psys sur une liste, souvent spécialisées dans des traitements de traumatisme, mais pas tous. Et puis après, sinon, les gens doivent chercher où ils peuvent aller. C'est très difficile de choisir un psy. Il n'y a rien de plus difficile.
Alors, c'est très difficile de se reconstruire, hein, surtout.
Et c'est parfois très difficile de se reconstruire. Mais mon expérience, c'est donc pas universelle, m'a fait constater que parfois les victimes directes se reconstruisaient beaucoup mieux et beaucoup plus facilement que ce qu'on appelle les victimes indirectes qui, elles, souffrent du syndrome du survivant.
Il y a aussi la difficulté de se reconstruire. Même, vous disiez, c'est plus facile par moment de se reconstruire quand on a été touché plus directement. Idem par rapport aux militaires qui, eux aussi, avec un syndrome de stress post-traumatique, se remettent peut-être mieux que les victimes des attentats. Parce que, justement, victimes d'attentats, on sait pas pourquoi ça nous est tombé dessus, alors qu'un militaire, il sait à quoi il s'engage.
Mais notez bien que le syndrome de stress post-traumatique, il a d'abord été diagnostiqué pour des militaires,
pour
en fait.
Les militaires,
voilà, pour les vétérans. Exactement, les vétérans qui revenaient du Vietnam. Oui. Donc ça vient d'abord de là.
Oui, ça a commencé là, l'expression.
Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on vit quand même une époque où prédomine le discours psychologique, comme il y a 30 ans, prédominait le discours. On disait tout est politique, ça, on renvoyait tout aux structures, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est avant tout prégnant dans le sens commun, c'est tout est psychologique. Bon, et donc c'est vrai que là, on discute du stress post-traumatique à l'échelle de personnes dont on peut, voilà, les militaires ou les blessés, les rescapés, où on peut en faire le diagnostic, où c'est tangible à l'échelle individuelle. Là où se joue le problème, c'est quand on en vient à parler d'un traumatisme qui serait collectif, qui serait au niveau de la société. Et en fait, ce genre de discours fait complètement à écran aux médiations. En fait, comment est-ce qu'on passe de ce qu'expérimentent les gens à une échelle individuelle à l'expérience à un niveau collectif de l'événement ?
D'autant plus que tous ceux qui étaient sur place, et dont certains ont travaillé des deux, trois jours d'affilée, comme par exemple avec le plan blanc, les médecins qui ne sont pas assis pendant un nombre d'heures phénoménal, les infirmiers, les aides-soignants, les pompiers, les soldats, tous ces gens qui sont quand même, on va dire, habitués à ce genre de pas d'événements, mais de traitements ou de choses à faire, et qui quand même ont subi un stress post-traumatique. À force, c'est
la répétition,
c'est la longueur,
le nombre,
c'est
la
dans
longueur,
la durée.
La durée.
C'est la durée qui a compté. Et puis, encore une fois, l'imprévisibilité.
Alors, il y a un message de Mamadou qui nous arrive de Bamako. Donc, là aussi, ils ont été touchés directement. Lui, il nous écrit « J'ai peur de ces terroristes qui, malgré cette peur, je suis condamné à vivre avec la situation. Partout où j'irai, ils seront présents et menaçants. Le problème est que les autorités au Mali prennent cette situation à la légère. » Jérôme Truc, est-ce que c'est un sentiment aussi qu'ont les victimes ici, quand elles disaient on savait qu'il y avait des attaques voyez, peut-être c'est... contre les concerts et on,
pour pouvoir, l'État en fait, n'a rien fait. Il faudrait fait. Savoir plus sur ce Mamadou, quelle est sa position sociale, son métier, etc. Parce que les attentats de Bamako, par exemple, ça avait avant tout visé, ça a été un hôtel qui accueillait avant tout des Occidentaux. Donc ceux qui sont sentis avant tout concernés, y compris en France, par ces attentats originaires, des personnes originaires du Mali, sont pas n'importe lesquelles, si vous voulez, des personnes qui sont au contact des Occidentaux, qui sont haut dans la hiérarchie sociale, plutôt que voilà, cette personne dit que où qu'elle ira, donc ça veut dire qu'elle voyage. Il y a beaucoup de Maliens qui voyagent pas et qui donc se sont pas sentis directement visés par ces attentats là. Et en fait, c'est vrai pour toutes les personnes. Dès qu'on considère une réaction individuelle, je vous disais en France, quelqu'un pourrait dire la même chose, ils sont partout, il faut apprendre à vivre avec. Et d'autres vous diront, bah non, moi dans mon quotidien, on voit ça à la télé, effectivement, on compatit aux pauvres personnes qui subissent ça,
mais ça change pas,
ça change rien pour
moi,
etc. Voilà, il faut tout le temps ramener ça à la position sociale des gens, à leur mode de vie, à où il se situe par rapport à l'événement.
Et on ne parle plus des attentats à Toulouse, par exemple. On n'en parle plus.
Et c'est intéressant parce que, au Carillon, quand je faisais des enquêtes de terrain, que je prenais des photos dans les jours qui suivaient, il y avait quelqu'un qui avait mis justement j'ai été Toulouse, j'ai été musée juif de Bruxelles, j'ai été Charlie, je suis Carillon, je suis 11e arrondissement, et qui terminait en disant fuck you terroriste. Et j'avais été frappé par ce message qui rappelait. Musée juif de Bruxelles, Toulouse, etc. Parce qu'effectivement, Toulouse, alors de quoi on parle déjà ? Ah oui, Mohamed Merah, 2012.
Toulouse, comme on a oublié la station Saint-Michel, comme on a oublié Copernic.
Pendant très longtemps, les victimes des attentats de Port-Royal en 96 se sont plaints du fait qu'elles avaient été complètement oubliées parce que Port-Royal était venu après la vague d'attentats de 95 où il y avait eu Saint-Michel,
absolument.
Etc.
Et Tati. Voilà.
De ce point de vue-là, le statut des victimes du terrorisme en France a quand même beaucoup changé
par rapport
à ce que Françoise Rudetsky appelait dans les années 80, la triple peine, ce sentiment d'être complètement abandonné, pas reconnu par la société, parce qu'on n'avait pas ces réactions aux attentats dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on a eu donc SOS Attentat, l'association française des victimes du terrorisme, on a d'autres associations qui sont créées après le 13 novembre et qui bénéficient d'une couverture médiatique sans précédent.
Et dans cet oubli, c'est ce que dit Kani de Maroua, qui dit justement nous, on a été complètement oubliés, personne ne s'émeut de ce qui s'est passé chez nous au Cameroun. Et il dit la seule force, c'est la solidarité face au terrorisme. Vous disiez, je suis Charlie. Alors, il y a eu un dessin de presse aussi qui est sorti il y a deux jours. Il avait commencé « Je suis Charlie, je suis Paris, je suis habitué ». Ça résume bien,
dessin,
Jérôme Truc,
c'est un dilemme à la suite de l'attentat de Bagdad, effectivement. Pour le titre en haut, en fait, c'est 200 morts en Irak dans l'indifférence générale et on a le cadavre recouvert d'un linceul et qui, en fait, brandit un panneau disant « Je suis habitué ». Et ça fait suite à toute une série de dessins de dilemmes après d'autres attentats que je trouve, à mon sens... très pertinent et effectivement ça renvoie aussi au problème du double standard des réactions, ce qu'on appelle le double standard des réactions des Occidentaux aux attentats selon s'ils ont lieu en Occident ou ailleurs dans le monde, ce qui pose aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, la question des médiations, c'est-à-dire aussi du rôle des médias là-dedans, qui précisément contribue à construire la réaction des sociétés aux attentats. Ce qui joue énormément, c'est l'identification aux victimes, et ce qui a beaucoup joué dans l'ampleur des réactions occidentales aux attentats dont on parle là, c'est le fait que systématiquement, on publie dans la presse pendant plusieurs jours des portraits des victimes, on nous montre leurs photos, on nous raconte leur vie, qui ils étaient, donc on peut s'identifier à eux.
Ce qu'a fait le Monde.
Ce qu'a fait le Monde, ce qu'avait fait le New York Times avant pour le 11 septembre, etc. Les journaux occidentaux ne font pas quand des attentats ont lieu ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, s'ils le faisaient, ils passeraient leur temps à le faire, les journaux seraient remplis de portraits.
N'intéresserait pas.
Et alors, ce qui pose question, parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui,
dans la
grâce aux réseaux sociaux, c'est
ça
qu'en
sert
fait,
ou ça dessert
des personnes qui ont des positions intermédiaires, là, typiquement, un Irakien vivant depuis 10 ans à Londres, s'est mis à le faire. C'est-à-dire qu'avant, sur les réseaux sociaux, on voyait, ou sur Internet, on voyait des gens publier des hommages à des victimes qu'ils connaissaient directement, des proches. Mais là, maintenant, on a des gens qui se mettent en position d'entrepreneurs de solidarité, qui interpellent en disant, ils reprennent les dispositifs journalistiques de publication de ces nécrologies et le travail que ne font pas les journalistes occidentaux, ils le font eux-mêmes. Mais du coup, ça interroge la pratique. C'est-à-dire que du coup, ça génère du buzz, comme on dit, sur Internet. Les journalistes se disent « Ah tiens, il se passe quelque chose », et puis du coup, se posent la question. Et on a un débat autour de ça qu'on n'aurait pas eu il y a 15 ans.
Alors pour terminer, est-ce qu'on peut se préparer quand même à un attentat ? Est-ce que ça peut faire partie de notre quotidien ? Est-ce qu'on peut s'y préparer ? Moi, j'ai l'impression, Sylvie Tenenbaum.
J'ai l'impression que si on s'y prépare, c'est qu'on vit dans une psychose. Est-ce que j'ai assez de bouteilles d'eau chez moi? Bon, enfin, je sais pas.
Est-ce que j'ai sur moi un numéro de téléphone, un kit catastrophe,
oui, alors je sais.
Un appel d'urgence? Est-ce qu'on
j'ai
avoir
entendu
ça
des enfants de 7-8 ans dire la liste des numéros de téléphone, le 17, le 12, etc. On leur apprend à l'école par cœur, numéro de téléphone. Ils n'ont pas d'ailleurs de téléphone sur eux, ce qui est donc totalement inutile, sauf s'ils sont à la maison. Mais s'y préparer, ça voudrait dire, bon, peut-être avoir chez soi un petit kit de secours, des pansements, de quoi se laver, des croquettes pour le chat, mais...
Mais c'est bon, la question plus générale, faut-il se préparer, peut-on se préparer, vivre au quotidien avec l'idée d'une potentielle mort violente, pas uniquement l'attentat, mais l'accident,
ça
etc.
Ça devient une psychose collective, bon, voilà.
Ça revient à ce que je vous disais, être conscient de sa condition de mortel. Soit on part le matin, en n'imaginant pas qu'on pourrait mourir ou que sa femme ou que notre enfant pourrait mourir dans la journée. Or, fondamentalement, ça peut arriver dans un attentat ou dans autre chose.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce très bon débat. Merci Sylvie Tenenbaum, auteure de « Apprendre à vivre avec les attentats » aux éditions Albin Michel. Comprendre et surmonter le stress post-traumatique, et Jérôme Truc, Sidération, une sociologie des attentats chez PUF. Merci à toute l'équipe et on se retrouve demain, alors nous en direct de Marseille à l'occasion de la demi-finale au stade Vélodrome. Enfin, nous on sera pas au stade Vélodrome, on sera sous les platanes pour parler de Marseille et des 1000 visages de la ville. En direct, on se retrouve demain.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.
Ici l'Europe.